Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Thibaut de Chassé au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séance du Libre Journal de la France Profonde, même si les conditions de son enregistrement sont quelque peu tragiques, comme vous l'aurez compris, et nous y reviendrons dans la première partie. Voilà, le programme de ce soir est dense, ambitieux, comme souvent. Alors, tout d'abord, nous reviendrons sur la figure du frère Thierry. Sa voix était certainement bien connu des auditeurs, en tout cas des auditeurs fidèles de cette émission en particulier, mais on connaissait sûrement moins l'homme. Voilà, et nous allons donner quelques éléments avec, grâce au témoignage de quelques-uns de ses amis qui sont venus ou qui interviendront par téléphone tout à l'heure. Voilà, c'est quand même une personnalité hors norme qui nous a quittés, et puis cette émission lui doit beaucoup. Donc c'est justice que de revenir un petit peu sur le frère Thierry, qui nous a quittés le 25 avril dernier, des suites d'une maladie assez brève. C'était un petit peu soudain. Dans une deuxième partie, nous reviendrons sur le scandale, sur l'affaire des vitraux de Notre-Dame de Paris, avec un fin connaisseur, Maxence Écart. Vous savez que les vitraux de Viollet-le-Duc ont été sont des rescapés de l'incendie de Notre-Dame, mais on veut quand même les changer pour les remplacer par des vitraux contemporains, donc contre toute logique, contre tout bon sens, et peut-être même aussi contre tout bon goût, voilà, pour ceux qui ont vu certaines images. Donc nous y reviendrons, nous donnerons des nouvelles de ce combat qui n'est pas terminé. Et puis enfin, dans une dernière partie, nous passerons des vitraux aux cloches, un peu plus haut, pour nous pencher sur l'histoire des cloches, la très belle histoire des cloches. C'est le titre d'un livre dont je recevrai l'auteur, Francine Bay, B-A-Y, donc pour évoquer cet instrument si particulier et qui a joué et qui joue encore un rôle si important dans notre civilisation occidentale. Voilà, tout d'abord, quelques petites annonces, si vous le voulez bien. Alors, il se passe des choses à la librairie française qui se trouve 202 rue Lecourbe, à Paris 15e, entre les stations de métro Vaugirard et Commerce. Donc librairie qui était assidûment fréquentée par le regretté frère Thierry. Il y a des rendez-vous prochains avec des auteurs, donc des rencontres, dédicaces. Par exemple, vendredi 12 juin en soirée, de 17h à 19h, c'est l'écrivain suisse Uli Windisch qui viendra dédicacer son livre « Guillaume Tell, la puissance d'un mythe ». Le lendemain, samedi 13, c'est le professeur Alain Lanavert qui viendra, de 15h à 18h, présenter et dédicacer des ouvrages de Robert Brasillach qu'il a préfacé à l'occasion de leur récente réédition. Les éditions des 7 couleurs font un travail remarquable en publiant des textes classiques ou même des inédits de Robert Brasillach, un très beau travail d'édition, et puis avec des annexes précieuses et utiles, et une belle iconographie, et puis pour certains d'entre eux, donc une préface du professeur Alain Lanavert, bien connu aussi des auditeurs de Radio Courtoisie, voilà, notamment Notre Avant-Guerre, le Corneille aussi de Brasillach, qui est remarquable, et puis un roman inédit intitulé Les Vacances. Voilà, que dire d'autre? Le samedi 27 juin, par exemple, l'après-midi toujours, il y aura une double rencontre dédicace avec deux auteurs, donc Alain Pascal, à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Du romantisme au national-socialisme, et donc, il signera aussi tous ses autres livres, hein, sur l'histoire occulte de la philosophie, notamment. Il sera accompagné d'Adrien Abosi, notamment à l'occasion de la parution de deux nouveaux livres consacrés à l'affaire Dreyfus. Un livre intitulé « Documents inédits sur Esterhazy et le commandant Cuigné » et l'autre intitulé « La revanche du Panama ». Voilà, il y a aussi l'auteur Francis Sanchez qui viendra présenter et signer son ouvrage « Anthropocosmos ». Bon, vous pouvez retrouver ces informations et d'autres sur le site de la librairie, librairiefrançaise.fr, ou alors en téléphonant au 01 83 62 98 12. Voilà, nous allons maintenant entrer dans la première partie de cette émission. En hommage au frère Thierry, donc, et pour évoquer sa mémoire, Ça fait quand même bizarre d'employer ces mots. Hein, si moi, je suis.
Absolument.
Oui.
Ouais, j'ai du mal à m'y faire. J'ai le plaisir de recevoir, alors ce sera dans quelques instants par téléphone, le professeur Pierre Magnard, philosophe, professeur émérite à la Sorbonne, ancien président du comité national du CNRS. Aussi par téléphone, et dès maintenant, notre ami Alain Le Bihan, essayiste. Bonsoir Alain, vous m'entendez ?
Je vous entends tout à fait.
Bon, merci d'être avec nous. Et puis dans le studio, Daniela Iancu, vous êtes anthropologue. Bonsoir.
Oui, bonsoir Thibault, merci beaucoup de nous avoir invités à cette émission.
Et aussi Charles, un ami du frère Thierry.
Bonsoir à tous, merci
d'être avec nous. Et puis nous attendons d'un instant à l'autre Maxence Écart, qui doit intervenir pour la deuxième partie, mais qui a aussi, bien connu le frère Thierry, et donc je serais heureux de recueillir au micro son témoignage, voilà, sur cet homme qui nous a quittés, donc le samedi 25 avril, à l'issue d'une brève maladie, hein, la librairie française annonçait cette nouvelle, je cite, « Personnalité hors norme et truculente, véritable érudit, homme de conviction et militante infatigable, le frère Thierry laisse un bien grand vide derrière lui, et de nombreux amis atterrés. » Cette émission, alors je vais commencer par dire quelques mots si vous le voulez bien. Cette émission, le libre journal de la France profonde, lui doit beaucoup, puisque depuis maintenant quelques années, il était présent presque à chaque fois, et on ne l'entendait pas toujours beaucoup au micro. Parfois, sa participation était très, très, très réduite, très laconique, et puis d'autres fois, on l'entendait davantage. En revanche, il a aidé aussi beaucoup dans les coulisses, si je puis dire, parce qu'il faut se renouveler presque chaque mois avec cette émission. Et au fil des ans, bon, il n'est pas toujours aisé de trouver de nouveaux thèmes, de nouveaux invités qui soient disponibles. Voilà, de nouvelles idées, si possible bonnes, et si possible aussi originales, de thèmes. Et le frère Thierry a beaucoup aidé en ce sens, hein, en suggérant des idées, en entrant en contact avec des personnes ou en présentant des personnes qu'il connaissait déjà, puisqu'il avait tout de même un réseau social impressionnant. Très impressionnant, nous en dirons peut-être quelques mots. Voilà, donc, je l'ai invité lui-même comme invité principal, donc, hein, à quelques reprises, mais finalement pas si souvent, mais il était là pour mettre un petit peu son grain de sel la plupart du temps. La dernière fois que je l'ai reçu comme invité principal, c'était au mois de décembre, à l'occasion du 150e anniversaire de la mort de Don Guéranger, donc auteur, personnalité catholique majeure du 19e siècle, et puis auteur majeur aussi, et restaurateur de l'ordre bénédictin en France, après les affres de la Révolution. Et le frère Thierry était aussi, issu du monde bénédictin, donc il était attaché à cette figure, il la connaissait très bien. Alors nous avions consacré cette émission au mois de décembre, et le frère Thierry en était très content, et moi aussi. Évidemment, le sujet n'avait pas été épuisé, donc l'émission en appelait d'autres. Bon, tant pis. Vous pouvez l'écouter toutefois donc sur le site de la radio, puis elle a été mise aussi sur YouTube. Elle est sur la page d'accueil, notamment sur la page d'accueil du site de la librairie française. Voilà, cette émission consacrée à Don Guéranger, dans laquelle vous pourrez réentendre le frère Thierry et puis mesurer un petit peu l'étendue de ses connaissances, hein, parce que c'était tout de même impressionnant. Voilà, et puis quelques semaines après, donc au mois de février, avec le frère Thierry, nous rendions un hommage à notre ami Jean-Baptiste Robert, qui pendant plusieurs années était présent avec nous aussi dans les coulisses, puisqu'il tenait l'accueil téléphonique. Hein, et il n'avait même pas 50 ans, et il est mort assez soudainement, avec des problèmes de santé. Nous en avions été assez émus avec le frère Thierry, nous lui avions rendu un petit hommage. Donc c'est toute une page, hein, qui se tourne pour cette émission. Avec Jean-Baptiste et avec le frère Thierry, nous sommes allés de nombreuses fois après ces émissions tardives pour prolonger les discussions avec nos invités dans des bistrots attenants. Voilà, et ça a pu se terminer très tard. Hein. Alain Le Bihan en a été aussi témoin quelques fois. Voilà. Donc cette émission lui doit beaucoup. Nous allons essayer de continuer ce combat, hein, ce combat culturel. Qui tenait tant à cœur du frère Thierry. Mais bon, il va falloir trouver un nouveau souffle pour l'émission qui était à l'orée de ses 10 ans. Hein, nous comptions fêter les 10 ans de l'émission dans un mois maintenant. Voilà, je ne sais pas ce que nous allons faire finalement. Alors Alain Le Bihan, je vais commencer par vous qui êtes au téléphone, si vous voulez bien. Voulez-vous nous dire comment vous avez connu le frère Thierry et depuis combien de temps ?
Oui, mais au préalable, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous venez de souligner. Et c'est une très belle vue du personnage. Moi, je l'ai rencontré il y a 6 ans, au moment où j'écrivais Macron, le grand liquidateur. C'était dans une réunion un peu spéciale. Et il m'a proposé de le recontacter quand j'aurais fini. Ce que j'ai fait, il l'a lu, et puis on est rentré en contact. Et je suis rentré en contact avec vous par la suite. C'est comme ça que les choses ont commencé. Et je crois que depuis ce moment-là, je ne crois pas que ne pas être resté sans le voir une semaine.
Ah oui.
Il y avait toujours une raison ou une réunion ou la librairie ou l'émission qui faisait que je le voyais souvent. Et donc c'était aussi un paradoxe parce que j'avais l'impression que je le connaissais depuis des années, des années, des années. On était proches parce que bon, souvent on était en voiture ensemble. Il habitait dans l'Est parisien comme moi, donc on avait déjà 1h30 de voyage quand on quittait Paris, la librairie ou la maison de la radio, et donc on était devenus très très proches. Il y avait un certain nombre de choses qu'on n'avait pas besoin de se dire pour se comprendre, ça coulait de source. D'ailleurs, je me suis aperçu quand il était décédé, comme un peu tout le monde, que ça n'aurait pas été plus mal qu'on en connaisse davantage. Ça aurait certainement simplifié un certain nombre de choses. Alors, donc, durant ces voyages, si vous voulez, moi, j'ai eu une formation accélérée sur un certain nombre de sujets que je n'avais jamais abordés. Bon, alors, il y a eu tous les problèmes de la religion, naturellement. Et au-delà de ça, il y avait toutes les rencontres qu'il avait eues avec les auteurs, tous les auteurs qu'il avait étudiés, donc qu'ils soient dans la littérature pure ou de la philosophie, donc il me faisait digérer ça avec une extrême facilité, et donc alors, on discutait dans la voiture en permanence sur les sujets dans les sujets qui étaient abordés, y compris sur les problèmes de spiritualité. Ouais. Et en même temps, il m'a fait connaître des personnages importants, enfin des personnages qui m'ont marqué. Bon, il y a vous et toute l'équipe qui est autour de vous, qui fait que bon, on reste dans le bain de la connaissance, dans le mouvement des idées. Hein, c'est quand même assez fondamental pour les hommes. Et d'autre part, ben, ne serait-ce que le professeur Magnard que vous allez recevoir dans très peu de temps. J'ai fait la rencontre du professeur Magnard grâce à frère Thierry. Et actuellement, je vois le professeur Magnard une fois par semaine et on essaye et je l'interviewe de telle façon à pouvoir transmettre toutes ses connaissances à l'opinion. C'est vrai aussi, dans le cours de l'émission, parce que je l'ai vécu, donc c'était la discussion entre Gérard Le Tailleur et puis frère Thierry sur les églises parisiennes.
Oui.
C'était un numéro exceptionnel, cette rencontre. Et donc voilà, toutes ces choses, je ne les verrai plus. Et quand vous m'avez appris sa mort, ça m'a foutu un coup. Ça m'a fait quelque chose.
Ah oui,
c'est très important.
Croire. Bien sûr. Oui, il avait fait bénéficier les auditeurs de Radio Courtoisie d'un feuilleton. C'était son idée d'un feuilleton consacré à l'histoire et à la présentation des édifices du Paris religieux ou du Paris sacré. Ça a duré tout de même, je pense, quelques dizaines d'émissions avec Gérard Le Tailleur. Parfois très brièvement, parfois plus longuement. Oui.
Ah non, mais vous aviez l'impression, quand vous étiez avec lui, parce que c'était ça qui était extraordinaire, vous aviez l'impression de rentrer dans l'église, il vous disait, donc vous regardez sur la gauche, vous avez ça, un peu plus loin, vous faites 3 pas, vous... Non, mais c'était inimaginable, parce qu'il n'avait pas de feuille de papier devant lui, Et Gérard Le Tailleur, qui connaissait le sujet aussi sur le bout des doigts, il ne remettait jamais en cause ce que disait Frère Thierry, parce que ça allait de soi pour l'un et pour l'autre. Alors il y avait aussi un aspect aussi que je n'ai pas souligné, parce que c'était aussi un personnage truculent, c'est-à-dire qu'il aimait bien faire des blagues aussi.
Il pouvait être bougon, c'est vrai, mais aussi très facétieux.
Puis il avait un beau sourire. Il avait un beau sourire quand il avait fait une niche, là, il vous regardait, bon, vous avez compris tout de suite que c'était une farce.
Il était très facétieux. Heureusement, il n'a pas tellement exprimé son humour au micro de Radio Courtoisie, parce que je pense que la radio aurait été fermée depuis longtemps. C'est un humour qui ne correspondait pas forcément aux normes du moment, voilà, dans tout un tas de domaines.
Je me rappelle que des fois, vous lui faisiez les gros yeux.
Oui, j'ai eu quelques frayeurs. J'ai eu des frayeurs.
Et puis, à ce moment-là, il faisait l'étonner. Après, il me faisait un coup d'œil, comme ça, tout était réglé.
Oui. Il m'a occasionné des sueurs, parfois, c'est vrai.
Ah non, en tout cas, moi, c'est un personnage extraordinaire. Je suis vraiment content de l'avoir rencontré. Alors, il m'avait fixé l'objectif de faire revivre Retour au réel.
Ah, oui.
Bon, ce que j'essaye de faire, j'ai beaucoup de difficultés parce que c'est des problèmes numériques, des problèmes d'ordinateur à résoudre. J'ai eu des soucis de ce côté-là. Mais de toute façon, le retour au réel revivra. Les 350 émissions qu'il a faites seront de nouveau accessibles. Et j'espère avoir le soutien du plus grand nombre des amis de Frère Thierry et de Radio Courtoisie.
Oui, mais écoutez, nous donnerons les nouvelles de l'avancement de ce projet précieux. Et donc il faut signaler aux auditeurs qui l'ignoraient que le Frère Thierry a pendant des années animé un cercle culturel qui se nommait le cercle de l'aréopage. Et donc, pendant des années, il a organisé chaque lundi un dîner-conférence. Donc chaque semaine, c'était vraiment un travail incroyable, au parloir chrétien du Vieux Colombier, à côté de Saint-Sulpice, un petit bar associatif,
la période du Vieux Colombier, oui.
Un peu original, on va dire, fantaisiste.
Oui, mais,
Et donc il avait créé une petite communauté et d'habitués. Et puis les interventions donc de ses invités, très variées et souvent des gens de grande qualité, très intéressants, étaient filmées. Et tout ça a été mis sur une chaîne YouTube, et puis ensuite il y a eu des problèmes. La chaîne a disparu, et donc ce sont surtout ces vidéos, si je comprends bien, que vous essayez de remettre à la disposition du public.
Les vidéos, voilà. Les vidéos, elles sont. J'ai réussi donc à les récupérer. Pas toutes, mais j'en ai quand même quelque chose comme 340.
Ah oui.
Donc, ça permet de toute façon de faire revivre un site qu'il a créé. Un principe qu'il a créé, qu'il appelle Retour au réel, dans lequel on peut interviewer des auteurs du livre qui apportent des éléments nouveaux, de la connaissance sur l'histoire, sur l'économie, sur la spiritualité.
Oui.
Voilà, donc je m'inscris dans cette démarche.
Bon, formidable. Nous vous en remercions. Et alors, Retour au réel, c'est ainsi qu'il avait renommé, puisqu'il avait fallu renommer son cercle culturel.
Oui, là,
c'était renommé Retour au réel, et c'est une référence au philosophe Gustave Thibon, le philosophe paysan catholique que le frère avait connu et pour lequel il nourrissait une grande estime. Un philosophe du réel, voilà, donc d'où le nom, Retour au réel. Très bien.
Oui, qui est déjà un titre exceptionnel en lui-même.
Tout un programme, bien sûr.
Eh bien voilà, c'est ce que je souhaitais, dire pour Frère Thierry.
Merci beaucoup.
Et je crois que vous avez Frère Magnard.
Voilà.
Frère Magnard qui va ensuite.
Cher Steve Wood.
Merci.
Pour cette évocation si émouvante.
Je vous en prie. Alors, c'est le professeur Magnard qui nous fait le plaisir d'être avec nous.
Voilà, je vous laisse.
Voilà,
je
au revoir Alain. Merci. Merci. Merci beaucoup, à très bientôt.
À très bientôt, merci. Merci Thibault, et bon courage.
Merci. Alors, professeur Pierre Magnard, merci d'être avec nous par téléphone. Pouvez-vous nous dire à votre tour comment vous avez connu le frère et puis quelle a été la nature de votre relation et quels souvenirs il vous laisse?
Eh bien, c'était un éveilleur, c'était un animateur, c'était un qui laissait passer aucune question sans qu'elle soit vraiment posée et résolue. C'est un homme très exigeant du point de vue de la vérité. Et c'est ce culte de la vérité qui a fait en sorte que je me suis attaché à l'écoute du frère Thierry et que je n'ai pas manqué une seule des séances du parloir du vieux Colombier.
Ah oui.
J'ai toujours été fidèle à cela. Et ce que je veux dire ce soir, c'est combien je suis orphelin, puisque comment aller à la vérité maintenant sans l'approche du frère Thierry? Comment je suis amputé de celui par lequel j'étais en prise sur le réel. Il faut dire que nous avons vécu une période d'intoxication très poussée et que il fallait précisément des sortes de prophètes pour pouvoir nous laisser entrevoir un retour au réel. Des prophètes, c'est comme ça que je le voyais. Dans ça, pur de pauvre aux yeux du monde, il nous arrivait du fin fond du désert comme un père du désert et il donnait une parole précisément à cette vérité orpheline.
Merci Pierre Magnard de ces mots très très forts et de ce bel hommage.
Alors, ce que je voudrais ajouter,
oui,
c'est que il avait à l'endroit de la vérité une attitude paradoxale. Paradoxale en ce sens que il était toujours en rupture, toujours en porte-à-faux, toujours en démenti, toujours en conflit. Et c'est cette attitude combative qui précisément nous obligeait de ne rien perdre de son enseignement et de suivre toutes les étapes de ce retour au réel. Retour au réel, pourquoi? Parce que 68, mai 68, nous avait été en quelque sorte imposé comme une perte du sens des choses. Et ce retour au réel était donc le passage obligé d'un retour à la vérité. La vérité, il faut dire que frère Thierry avait à son endroit une passion. une passion violente, une passion qui ne s'accommodait pas des facilités, des compromis, et qui se voulait précisément total. Et c'est pourquoi il y avait une sorte de fidélité à la colère. Car Siri était un homme en colère. Car il voyait trop combien on avait défiguré la vérité. Il voyait trop comment on s'était mis dans des conditions d'impossibilité vis-à-vis d'elle. Et c'est cette prise de conscience qui s'imposait absolument. Il fallait, et c'était précisément l'objectif de toutes les soirées du Vieux Colombier, il s'agissait précisément d'effectuer ce retour au réel. Comment cela s'effectue-t-il? De la façon la plus simple, il me téléphonait la veille pour me demander si je pourrais réactualiser une lecture de Montaigne ou bien une lecture de Pascal. Et réactualisant ces lectures, si je pouvais donner une chance de rencontrer à nouveau la vérité. La vérité, pour un homme en colère, c'est évidemment quelque chose de lourd à porter. C'est quelque chose de difficile à vivre. C'est quelque chose d'insupportable. La vérité, comme précisément ce qu'on n'a pas le pouvoir de porter. Et c'est cette vérité qu'il s'agissait de retrouver dans une relecture de Montaigne ou de Pascal ou de quelque autre grand témoin de ce qu'avait été cette recherche du réel dans la philosophie occidentale. Alors, on se retrouvait très, très modestement autour de sa table, prêt à nous nourrir de sa parole, sans doute, et surtout de sa passion, mais aussi, évidemment, de ce repas qu'il confectionnait pour nous avec sa simplicité et sa modestie, afin que le retour au réel ne soit pas un simple préambule ou mais qu'il corresponde à une réalité effective. Et le débat se déroulait jusque la nuit tombée, et nous nous trouvions là. Ensuite, sur le trottoir, le plus souvent mouillé par une pluie. Mais le prince Thierry n'avait aucun égard à sa santé et à ce qu'il était. Et il subissait toutes les intempéries comme si ce dommage n'existait pas. J'ai l'impression que je me trouvais devant un témoin, devant un homme de foi qui professe avec colère une vérité que l'on ne veut plus admettre et qui voudrait nous retrouver dans l'âme de ceux qui combattent vraiment pour la vérité en prenant conscience de l'injure qu'on lui fait tous les jours, en donnant dans le compromis, en le laissant aller, dans une sorte de recherche complaisante, en quête de tout arrangement possible avec cette vérité.
Oui. D'ailleurs, merci beaucoup. Merci, professeur Magnard, pour ce très bel hommage, ce très beau témoignage. C'est le frère Thierry qui nous avait mis en relation et qui avait été à l'initiative de plusieurs émissions durant lesquelles vous aviez fait bénéficier les auditeurs de Radio Courtoisie de vos grandes connaissances, notamment autour de Pascal, dont vous êtes l'un des spécialistes. Merci encore, monsieur le professeur.
Oui, j'ai écouté tout l'après-midi une présentation avancée, courageuse et sans complaisance de l'œuvre de Pascal par une personne qui mérite qu'on lui rende hommage, car son évocation de la vérité était véritablement digne de cette exigence. Il s'agit de la façon dont Laurence de Villers a présenté les notions de foi et de raison, de cœur et de raison, chez Pascal, et
oui,
qui a essayé de montrer que le progrès était peut-être au fond l'horizon que nous prétendons dépasser, mais qui est là tout de même au seuil de nos réflexions comme une butée, comme un butoir. Et c'est cet horizon que Thierry voulait nous amener à toucher le doigt et en se demandant si véritablement on pouvait rester dans les limites de la raison. La foi dans les limites de la raison.
Oui.
Et je pense que le frère Thierry ne préjugeait pas de mon interprétation. Mais il l'a provoqué et il me contraignait précisément ce passage à la limite, passer sur l'autre rive. Passer sur l'autre rive, c'est-à-dire sur la rive où l'on peut précisément concevoir une vérité sans faille, une vérité entière.
Très bien, écoutez, ce sera malheureusement une conclusion, une très belle conclusion, parce que nous allons devoir passer la parole à d'autres invités, mais nous pourrons revenir sur ces thèmes hein, avec grand plaisir, professeur Magnard. Merci beaucoup de votre témoignage.
Cher Thibault, merci de tout cœur.
Je vous en prie.
De me donner la possibilité de rendre justice à la mémoire du frère Thierry.
C'est bien normal.
Sans lui, il n'y aurait pas eu ces rencontres. Il n'y aurait pas eu ces amitiés qui constituent le lieu même d'émergence de la vérité. Les amitiés.
Oui. Oui. Merci, professeur Magnard. À bientôt.
Je crois qu'il y a un mot qu'il faut retenir. C'est le mot colère.
Oui.
Frère Thierry était un homme en colère, car il n'avait pas la moindre compromission avec l'erreur. Et l'autre mot qu'il faut retenir, c'est précisément le mot témoin de la vérité. Témoin de la vérité.
Oui. Merci.
Nous montrer que nous sommes à chaque instant engagés dans ce service de la vérité.
Très bien. Merci, professeur Magnard. Voilà, nous sommes toujours sur Radio Courtoisie, le libre journal de la France profonde. Je me tourne vers mes autres invités, puisque leur tourne Daniela Yonkou. Vous connaissez bien maintenant le professeur Magnard. D'ailleurs, c'est le frère Thierry qui vous a présenté. Que pouvez-vous nous dire du frère Thierry?
Oui, tout à fait. Bah, tous les points essentiels, je pense qu'on s'est déjà évoqué. Il était un homme de foi, de vérité, bon, très passionné du patrimoine religieux de la France, des traditions de la foi chrétienne. Il était en même temps une porte vers d'autres personnes. Moi, je veux évoquer, souligner en même temps son amitié avec Père Jean Bobok, un théologue roumain, donc médecin et professeur d'anthropologie chrétienne aussi. C'est lui qui a créé le centre de recherche Dumitru Stăniloae, qui est centre de recherche de formation qui existe encore.
Ouais.
Il a fait sa thèse sur l'eschatologie de la théologie chrétienne. Et donc, j'étais témoin à leur amitié.
Voilà, vous êtes vous aussi roumaine d'origine et...
Oui, tout à fait. Par l'intermédiaire du Jean Bobok, je pense qu'on a réussi à m'approcher et de lier l'amitié moi-même, parce que je l'ai connu aussi du parloir chrétien où il tenait ses conférences, mais là, on ne s'est pas approché beaucoup plus.
Le père Jean Bobois, qui était quelqu'un pour qui le frère Thierry avait beaucoup d'estime, une très grande estime, et beaucoup d'affection aussi.
Tout à fait.
J'ai eu
oui.
l'occasion de le constater lors des funérailles du père Bobok, qui est mort prématurément d'un cancer.
D'un cancer, oui, exactement.
Et j'ai en souvenir, pour ma part, je ne l'ai pas tellement connu, mais nous avions fait une émission à l'initiative du frère encore, avec le père Bobok, sur la question du transhumanisme.
Tout à fait. Hein,
parce qu'il connaissait bien ce sujet.
Il a écrit un livre, oui, exactement.
Oui, c'est ça. Et ça avait été une très belle émission. J'ai vu de très bons retours. Et après, nous étions allés prendre un verre et la discussion s'était terminée très tard, très tard.
Oui, tout à fait.
C'est moi le plus jeune d'ailleurs qui avait dû mettre un terme au débat. J'étais épuisé tard dans la nuit dans un café à côté avec le frère Thierry et le père Bobok. Mais c'était passionnant.
Oui, il a
vous pouvez l'imaginer.
Bah, il était professeur de bioéthique en même temps, donc il était centré sur les vrais sujets actuels, mais il se posait des questions sur ce qui est éthique, morale, donc il n'hésitait pas de se lier à ces questions. Il a écrit les deux livres, donc La Grande Métamorphose, c'était sa thèse de doctorat, et après le transhumanisme décrypté. Et c'est lui-même, comme il a évoqué professeur Mania, qui est entré en contact avec lui, lui a préfacé le livre, c'était un très bon livre aussi, ça m'a marqué. Ouais. Et moi, j'étais très émue aussi par leur amitié. Donc, c'était très extraordinairement humaine et sacrée. Bon, ils mettaient au centre de leur discussion, bon, bien sûr, le Christ, les anges, les saints, ils avaient leurs discussions. Et après, moi-même, quand j'avais mes discussions avec frère Thierry, quand on avait des contradictions sur des questions théologiques, dogmatiques, il disait non, je n'ai jamais eu ces problèmes avec Jean Bobok. Il comprenait bien, il a compris la cohérence, donc il évoquait à plusieurs fois, il le citait après, et il me faisait comprendre pourquoi. Donc c'était une continuation après par frère Thierry des sujets que je n'avais pas finalisés avec Père Bobok. Moi je traduisais pour lui, parce qu'il publiait un roman, à l'époque il ne connaissait pas très bien le roman, il connaissait le français. Donc, et donc c'était une amitié qui, jusqu'à la mort, qui a continué après sa mort, parce qu'il voulait aussi rééditer le livre donc sur le transhumanisme décrypté. Et ça m'a beaucoup touchée. Il l'a vécu à plusieurs reprises. C'est vraiment... Ça m'a marqué donc cette relation.
Oui.
Il avait une grande sympathie, une grande forte appréciation. Entre les deux, en fait, il y avait une forte appréciation. Et même après sa mort, il a continué de venir à la cathédrale romaine. Les Romains, les croyants, ils le connaissaient parce qu'ils les voyaient ensemble. Donc
Et le frère Thierry était très intéressé aussi et très connaisseur du christianisme oriental et de ses divisions aussi, malheureusement. Et donc, il fréquentait tout un grand nombre de lieux de culte variés.
Oui, tout à fait, il connaissait le...
Il avait des connaissances un peu partout. Il avait une très grande connaissance de l'histoire ecclésiastique, de l'histoire religieuse.
Bah oui, les sujets, c'est autour de
aussi,
ça.
Oui.
C'est ça, autour de la philosophie, la théologie des premiers siècles, la philosophie chrétienne des premiers siècles.
Après,
il était intéressé à Pascal, donc il voulait faire des publications et beaucoup d'émissions avec Pierre Magnard, professeur Pierre Magnard, sur Pascal. Et donc,
le frère Thierry s'intéressait à la patristique, il avait de solides connaissances quant au père de l'Église. Hein. C'est intéressant.
Exactement.
Bon, le frère Thierry était, quitte à se répéter, un véritable érudit. Voilà. Le mot est parfois utilisé un petit peu à la légère ou avec emphase, mais pour lui, je pense que c'était vraiment adapté. Tous ceux qui l'ont connu ont été impressionnés, et puis il n'était pas du genre à étaler avec vanité ses connaissances et sa culture. Hein. Il fallait le faire dérouler, et c'était sans fin.
Mais c'était un homme de l'esprit, c'est certain.
Ouais.
Il était très humble, oui, en même temps. C'est ce qu'il a bien remarqué et suggéré professeur Pierre Magnard. Il avait sa manière de vivre les choses. Il n'était pas du tout attaché au matériel. Il était d'esprit et était très, très, très spirituel.
Oui.
Il nous a attiré l'attention là-dessus.
Oh, il ne se nourrissait... Moi, je l'ai vu, il ne se nourrissait quasiment pas.
Oui.
Si ce n'est de café... De tabac et de livres.
Oui, c'est ça.
Il était bien à la librairie.
Il était très passionné par les livres, et par tout ce qui est culture chrétienne en général.
Oui. Merci Daniela Yonkou pour ce témoignage. Et je me tourne maintenant vers notre ami Charles. Alors, le frère Thierry, vous le connaissez peut-être depuis moins longtemps que d'autres, mais vous l'avez quand même bien connu. Pouvez-vous nous en dire plus ?
D'abord, j'aimerais témoigner ma reconnaissance pour le frère Thierry, puisque c'est lui qui m'a ramené à la foi, c'est lui qui m'a ramené à la lecture spirituelle. Mes lectures avant étaient purement, disons, romanesques, sans ce fond-là. Et donc, grâce à lui, j'ai retrouvé des chemins, dirais-je, ascensionnels. Et pour cela, je suis très reconnaissant, comme vous venez de le spécifier. Effectivement, j'ai rencontré frère Thierry à la librairie française.
C'était un pilier.
Oui, un conseiller formidable. Et effectivement, je l'ai rencontré l'année dernière, au mois de juillet, grâce à une émission de Radio Courtoisie. Il y avait Alain Pascal qui témoignait, qui disait qu'il allait faire une séance de dédicace à la librairie française au 200 de rue Lecourbe, comme tout le monde doit le savoir maintenant. Et il s'avère que j'habite pas très loin. Et je me suis dit, allons voir. Et j'y suis allé, je suis directement tombé sur lui, ce qui est, ce qui peut pas, enfin, si vous, quand vous le rencontrez, un léger décalage. Et j'ai été très curieux de sa personne, très vite. Et effectivement, une personnalité hors norme, quelqu'un de extrêmement polarisant à certains moments et totalement qui rendait presque addict à son écoute.
Il aimait bien provoquer.
Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, il
y a de la casse un petit peu.
Exactement. Et il en riait beaucoup avec un espèce de semi-rire presque indélicat, mais tout très touchant. Donc c'était, il y avait beaucoup de paradoxes chez cet homme et beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse, beaucoup de rêves, beaucoup de passion.
Oui, c'est vrai. Toujours des projets.
Toujours, toujours.
Projets, pas toujours réaliste.
Plus. Mais beaucoup de rêves. Et il les faisait partager. Et c'était quelqu'un... Enfin, il m'a fait un espèce de programme sur mesure pour moi, pour essayer de m'extraire un peu du marasme dans lequel nous vivons et dans lequel je vivais un peu plus particulièrement, en tout cas. Et c'est vrai, voilà, donc le témoignage que je souhaite faire à propos de frère Thierry, c'est cette reconnaissance.
Ah, mais c'est précieux.
Oui,
vous n'êtes peut-être pas le seul qui l'a aidé à retrouver le chemin de l'Église.
Tout à fait. Nous sommes une petite flopée.
Saint-Eugène, notamment à Paris.
Absolument, Saint-Eugène-Sainte-Cécile.
Oui.
Il avait sa place au dernier rang, bien connue. Place à laquelle il manque maintenant. Mais les gens qu'il a fait venir prennent le relais et nous espérons qu'à notre tour, nous ferons prendre le relais à d'autres, qu'ils le font prendre à d'autres. Donc, je remercie vivement frère Thierry pour cela. Je suis absolument certain qu'il nous entend. Donc, merci beaucoup, frère Thierry.
Moi, je voulais ajouter en même temps que moi aussi, je suis arrivée à la librairie française grâce au frère Thierry.
Ah, oui, d'accord.
Et après, j'ai
un très bon conseiller.
Écouter,
très, très bon conseiller.
Je le remercie pour ça.
La librairie française lui doit énormément. Pour vous dire, si elle existe encore, c'est en partie grâce à lui, puisqu'elle s'est retrouvée quand même en difficulté économique il y a quelques années. Il était question même de la fermer. Et le frère Thierry s'est dressé vent debout. Et il a eu un rôle dans le fait que la librairie se maintiennent et essaient de trouver un nouveau souffle en déménageant, tout en restant dans le 15e arrondissement, mais en déménageant rue Lecourbe. Hein, c'était toute une épopée. Mais elle lui doit beaucoup, notamment à cette occasion où elle a dû affronter différents problèmes et obstacles. Et puis il était effectivement tout le temps là, prêt à aider, et puis à donner des conseils aussi, à faire venir des gens. Enfin, c'est devenu un lieu de rencontre aussi et de discussion. Et puis, ses conseils étaient appréciés quand il les donnait. Ce n'était pas toujours le cas, mais c'était souvent apprécié, notamment sur les questions historiques et puis, bien sûr, religieuses. Au nom de la librairie française, je voudrais aussi lui exprimer publiquement notre grande gratitude. Il a sa photo, en grand, maintenant, dans la librairie. Il y passait vraiment une grande partie de sa vie. Et c'était pour lui quelque chose d'important humainement, mais aussi... Frère Thierry, c'était aussi un militant, infatigable. Et son combat principal, c'était le combat culturel. Il en parlait régulièrement. Et pour lui, cette librairie, c'était un élément indispensable, bien que modeste, mais de ce combat culturel qui lui tenait tant à cœur. Voilà. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, mais à ce micro, le frère Thierry voyait régulièrement le professeur Manière. Et vous étiez là aussi, Daniela, j'ai vu une vidéo. Et le frère Thierry, à un moment, avait cette réflexion sur la culture. Il rappelait que c'était Le mot avait la même racine que culte, hein, et que défendre la bonne culture, c'était aussi une manière de rendre hommage au créateur. Et puis, pour dire un mot encore sur le frère Thierry, si vous voulez bien, par rapport à la librairie, c'était de façon générale un homme du livre.
Oui, tout à fait.
C'était un homme du livre. Il lisait beaucoup, il retenait ses connaissances encyclopédiques, il les a acquises grâce au livre. Il avait aussi probablement une mémoire prodigieuse, hein, mais il y a de très nombreux livres dont il pouvait parler comme ça, et de très nombreux auteurs, parfois connus presque que de lui, mais dont il pouvait parler et diriger comme ça précieusement ses amis ou les gens qui le souhaitaient, hein, par ses conseils ou par ses idées de lecture. Et il avait aussi une bonne pratique de livres en tant qu'objet, hein. J'étais stupéfait parfois quand il fallait donner une cote, une valeur marchande à des livres d'occasion ou des livres anciens. Il était toujours dans le mille, hein, si j'ose dire. Il connaissait bien les valeurs et les cotes des livres, hein. Il m'avait expliqué qu'il avait été chargé d'une bibliothèque à un moment dans une communauté religieuse, et c'est ainsi qu'il s'était formé, qu'il avait gardé à peu près une vision claire de la valeur des livres. C'était remarquable aussi cet aspect. Mais il a eu plusieurs vies, à vrai dire. Les pièces du puzzle commencent à se réassembler, mais il a eu une vie, je dirais, difficile, hein, et complexe, hein, sur son parcours religieux. Et en plus, c'était un homme très mystérieux, hein, qui gardait jalousement son secret, les secrets sur lui. C'était très difficile d'obtenir des informations. Mais enfin, il a pratiqué plusieurs communautés, en général dans le domaine bénédictin. Il était notamment à Couloutre avec l'abbé Schaeffer, ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps. C'est pour ça qu'il lui gardait une grande estime et une grande affection.
Je crois qu'il est allé un peu partout.
Il est allé un peu partout. Et puis donc il a exercé diverses activités, hein, enseignant, il a prêché des retraites, il a aidé des couples à se préparer au mariage, et puis il a été bibliothécaire aussi, donc professeur de latin. C'était un fin latiniste, et un puriste, hein, donc il donnait aussi de nombreux cours de latin.
Oui, effectivement, je connais de ces élèves.
Quand quelqu'un lui demandait quelle édition, quelle version de la Bible il recommandait, il expliquait que pour lui, il fallait la lire en grec, hein, ou à la limite en latin, sinon ça n'avait pas d'intérêt. C'est une vision, une approche un peu élitiste.
C'est segmentant. Oui.
Maxence Écart, il nous reste quelques instants pour cette première partie consacrée au frère Thierry. Vous l'avez connu un petit peu aussi, que pouvez-vous nous en dire ?
Je l'ai connu depuis très longtemps, en fait, puisque je l'ai connu en 2004, moi.
Oui.
Et je l'ai vu arriver dans la maison de mes parents. Il s'occupait à l'époque d'un vieux prêtre qui s'appelait le père Martin et qui était un ancien aumônier militaire rattaché au diocèse de Chartres. Et avec le père Martin, ils avaient eu le projet de développer une communauté dite Saint-Jean-Baptiste dans l'ancienne maison de famille de Clerfairchaud, qui s'appelait La Graffinière. Et malheureusement, ce projet n'avait pas abouti. Et donc, quelque part, il errait à la recherche d'un point de chute, si vous voulez.
Ouais,
et je me souviens très bien que ma chère mère, en les voyant arriver, c'était en été, il y avait un soleil de plomb, ils étaient épuisés d'une très grande pauvreté. Et ma mère nous a dit, mais ce prêtre va mourir. Et de fait, il est mort 3 semaines après, près de Bélègue. Et le frère Thierry, qui l'avait accompagné, je vous donne cette anecdote qui illustre le personnage, l'avait accompagné pendant toutes les dernières années de sa vie. Il a été congédié par la famille, évidemment, qui considérait qu'il n'avait plus sa place. Et il s'est retrouvé sur la route à nouveau, si vous voulez. Alors après, il a été donc au Centre Saint-Paul, il s'est occupé d'une librairie, et puis il y a eu toutes ces conférences admirables qu'il montait au Vieux Colombier, où je suis allé, d'ailleurs avec le professeur Magnard, pour présenter mes livres. Et effectivement, pour moi, le frère Thierry, c'est une sorte d'anachorète oriental, en fait. Hein. Mmh. C'est-à-dire un homme qui vit vraiment pour l'esprit, pour la connaissance, pour la vérité, comme l'a très bien dit le professeur Magnard, avec aucun souci de lui-même, ni de sa santé, et vivant dans une pauvreté extrême, sans se plaindre jamais, et très seul, quelque part, et en même temps faisant le lien avec de multiples personnes pour répandre son message de vérité, comme l'a très bien dit le professeur Magnard. Et ça, je pense que c'est une figure qui existe beaucoup dans les églises orientales, en fait, hein, de ce solitaire, ce moine solitaire, très pauvre, qui est respecté et admiré.
On peut penser au folle en Christ.
Voilà, c'est un petit peu... Et cette figure est tout à fait incroyable à notre époque.
Si ah oui,
c'est,
oui.
C'est une, il est hors d'âge, si vous voulez.
Il faut, oui.
Et je crois que c'est ce qui frappait lorsqu'on voyait le frère Thierry. On se disait, mais c'est un homme d'une autre époque. Et je crois que c'était un homme d'une autre époque. Mais toute sa force... Et ce qu'il nous laisse, c'est précisément, comme tout le monde l'a dit et l'a ressenti, cet attachement profond et précis à la vérité qu'il portait et qui nous faisait avancer tous, quelque part. Hein. Et donc, très, très belle figure, ce frère Thierry, mais effectivement, je pense qu'il a eu un certain nombre de désillusions. Parce qu'il a croisé beaucoup de communautés, beaucoup de gens. Il n'a pas toujours été... On n'a pas toujours été juste avec lui.
Il n'a pas toujours été très prudent non plus. Hein,
il n'a pas toujours été très relations. Prudent, c'est sûr. Mais donc, une vie assez sinueuse. Mais en tout cas, il est mort dans la foi. Et en laissant quand même de beaux fruits derrière lui. Et je pense que Dieu nous jugera tous. Mais je pense que cela devrait compter.
Oui, bien sûr. Merci Maxence Écart pour ce témoignage. Mais pour revenir là-dessus, les auditeurs, enfin ceux qui n'ont connu le frère que par les ondes, effectivement, ne soupçonnent peut-être pas quel genre de vie il menait.
Ah oui.
C'était, pour employer un terme vulgaire, un SDF. Hein,
et
parfois, il refusait l'aide, donc ce n'est pas toujours facile aussi de lui venir en aide. Mais il s'était choisi cette vie de vagabond en marge totale du système. Il n'avait pas de compte en banque, il n'avait pas de... Aucun papier, vraiment en marge. Hein.
Oui, c'est ça.
Certains le prenaient, imaginez que c'était une sorte de clochard. Et de ce fait, d'ailleurs, c'est pour ça que les obsèques n'ont pas encore eu lieu, hein, pour des difficultés, des raisons de difficultés administratives. Donc, les obsèques n'ont pas encore eu lieu. J'espère qu'elles pourront se dérouler bientôt, de belles funérailles. Et voilà, vous pouvez prendre des informations à ce sujet de temps en temps auprès de la librairie française, par exemple. Ce sera indiqué aussi sur le site de la librairie, pour ceux que cela intéresse. Voilà, écoutez, nous allons devoir passer au prochain sujet. Merci à tous pour vos témoignages. Et puis, quoi qu'il en soit, le combat pour le retour au réel continue. Voilà, nous nous retrouvons dans quelques instants sur Radio Courtoisie.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Voilà, nous nous retrouvons sur Radio Courtoisie, le libre journal de la France profonde, dont la première partie était consacrée à la figure du frère Thierry, qui fut pendant quelques années un pilier de cette émission. Voilà, l'émission lui doit beaucoup. Et là, nous venons d'écouter un extrait de l'introïte de la messe de Saint-Benoît par Don Gajard. C'est un morceau que le frère avait demandé que l'on passât lors d'une des dernières émissions. Je crois que c'est celle qui avait été consacrée à Don Guéranger. Et peut-être que nous n'avions pas eu le temps, il me semble, de la passer. Donc voilà, c'est réparé. Je me tourne maintenant vers Maxence Écart pour évoquer brièvement mais efficacement la question des vitraux de Notre-Dame de Paris. Il y a un scandale en cours, mais voilà, le combat n'est pas terminé. Où en sommes-nous, s'il vous plaît? Alors, je rappelle que vous êtes président de l'association de défense du site de Notre-Dame et de ses environs.
Voilà, tout à fait. Donc, c'est une association qui regroupe plusieurs centaines, non seulement de riverains de la cathédrale, mais également de Parisiens, voire de personnes encore plus lointaines, et qui a pour objet la défense du site de Notre-Dame et de tout ce qui entoure ce site de Notre-Dame. Alors, c'est un sujet d'actualité pour notre association, puisque, comme vous le savez, après l'incendie de Notre-Dame en 2019, le président de la République, Emmanuel Macron, a proposé que l'on fasse un geste pour marquer notre époque à l'occasion de la restauration de cette cathédrale. Et dans cette démarche, il a été soutenu, sinon mené, on ne le sait pas, par l'archevêque de Paris, Mgr Ulrich, qui donc considérait qu'il était souhaitable pour la communauté catholique de Paris de pouvoir marquer la cathédrale, marquer notre époque dans les pierres de la cathédrale, en quelque sorte.
Oui, je vais lire si vous voulez bien un petit extrait, parce que c'est important. Beaucoup de gens critiquent le président Macron à ce sujet, mais il n'est pas le seul coupable. Et malheureusement, encore une fois, les évêques, au lieu de défendre le patrimoine sacré, eh bien... Ne lui rendent pas honneur. C'est le ministère de la Culture lui-même qui avait communiqué sur son site internet, je cite, « Lors de sa venue sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris le 8 décembre 2023, le président de la République a fait savoir qu'il donnait une suite favorable à la demande de Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, d'installer des vitraux contemporains dans les fenêtres de 6 chapelles du bas-côté sud de la nef. » Alors, peut-être que le ministère de la Culture... n'est pas très rigoureux dans sa présentation des choses, mais il explique que c'est carrément une demande de l'évêque.
Oui, tout à fait, et je crois que ça correspond à la vérité. Alors, quel est le projet en trois mots, hein? Vous avez plusieurs niveaux dans la cathédrale Notre-Dame de vitraux, et au premier niveau, au rez-de-chaussée, si j'ose dire, vous avez des vitraux dont en partie sont faits de grisaille, c'est un style de vitrail qui a été voulu par Viollet-le-Duc, et c'est un style de vitrail assez clair, figuratif, mais avec des figures symboliques, si vous voulez. Il n'y a pas de personnages, il n'y a pas de scènes qui sont représentées. Et Viollet-le-Duc a voulu cette simplicité, d'abord parce qu'elle est traditionnelle dans l'Église, et parce qu'ensuite, elle diffuse une lumière spécifique qui permet d'éclairer, si vous voulez, le fond de la cathédrale à une époque où il n'y avait pas l'électricité, évidemment. Mmh. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a demandé à un peintre qui s'appelle Claire Tabouret, qui habite à Los Angeles, et de faire un projet de vitraux contemporains pour remplacer les vitraux de 6 chapelles latérales sur le bas-côté sud. Et donc, elle a fait ce projet et immédiatement, les spécialistes se sont opposés à ce projet. Alors, pourquoi? Parce que, comme vous le savez, la France est signataire des grandes chartes internationales de protection du patrimoine, la charte d'Athènes 1931 et la charte de Venise en 1965. Et ces chartes, qui oblige la France, évidemment c'est une obligation morale, c'est pas un texte dans notre corpus législatif, mais c'est quand même des traités que la France a signés, oblige à la conservation et à la restauration à l'identique des monuments. Or, les vitraux que le président Macron et Mgr Ulrich souhaitent remplacer ne sont pas abîmés par l'incendie, ils sont absolument intacts. Et donc, tous les spécialistes et les amoureux du patrimoine se sont dressés face à cette décision en disant « mais on ne restaure pas là, qu'est-ce qu'on fait ? On change quelque chose ». Alors, il y a eu deux procédures qui ont été lancées et il y a eu récemment deux décisions qui ont eu lieu dans ces procédures, mais l'affaire n'est pas finie. Alors, la première décision a été au mois de novembre et la première procédure, si vous voulez, disait « la décision du remplacement des vitraux est illégale ». Puisque l'établissement public, qui a donc été créé par une loi en 2020, à la suite de l'incendie, a été créé pour la restauration et la conservation de la cathédrale. Or, là, on ne parle ni de restauration, ni de conservation, puisqu'on parle d'un remplacement. Et donc, l'association Sites et Monuments, et également un donateur qui avait fait des dons importants, ont demandé l'annulation de leurs dons et ont demandé l'annulation de cette décision pour ce motif. Et on a eu la décision de la première instance du tribunal administratif au mois de novembre qui a rejeté en fait cette demande sur un motif qui est très étonnant puisqu'ils ont dit « Ah mais le concept de restauration et le concept de conservation ne sont pas définis et déterminés dans le code du patrimoine ». Or, dans les débats parlementaires qui avaient précédé le vote de la loi établissant l'établissement public de Notre-Dame, le ministre de la Culture de l'époque, Franck Riezer, et le rapporteur de la loi s'étaient référés à la charte de Venise. Et donc, la décision de justice est incompréhensible, évidemment, et donc l'association Sites et Monuments a fait appel. Nous n'avons pas encore la décision d'appel. Ensuite, il y a eu une seconde décision de justice qui est très récente, puisque je crois qu'elle date du 19 mai, et la même association a attaqué l'autorisation de démarrer le chantier, qui est une autorisation administrative qui a été donnée, et l'a attaqué en disant que, en référé, on abîmait la cathédrale et donc qu'il fallait bloquer cette ouverture de chantier. Et là aussi, en référé, le tribunal administratif a rejeté cette demande de l'association Sites et Monuments au motif que les travaux de remplacement des vitraux n'étaient pas irréversibles et de fait, les anciens vitraux ont été restaurés et pourront être reposés si jamais la demande au fond prospère en appel, si vous voulez. Donc la procédure n'est pas du tout achevée, mais il est vrai qu'on a l'association a eu deux revers. Ça n'est pas étonnant, hein, puisque nous sommes devant le tribunal administratif. Les tribunaux administratifs sont quand même très proches des pouvoirs publics. Et la volonté politique à la fois du président Macron qui, comme tous ses prédécesseurs, veut laisser une trace de son passage au pouvoir dans la pierre, et celle de Mgr Ulrich qui veut nous faire accroire que son église est vivante et donc qu'elle est capable de créer des éléments de patrimoine qui soient du niveau du reste de la cathédrale et donc déposer ses vitraux. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc la bataille judiciaire se poursuit, mais la polémique est à porter sur le sujet également. Alors je ne sais pas si ça a déjà été évoqué à ce micro,
non.
Mais vous savez que l'une des demandes, parce que un certain nombre d'instances de protection du patrimoine, par exemple la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, s'est opposée dans plusieurs décisions à l'unanimité et à plusieurs reprises à ce projet. Hein. Sont des choses tout à fait rares, si vous voulez, qui sont arrivées. Et alors, quand on regarde les projets, donc pour essayer d'acclimater ce projet, ces nouveaux vitraux auprès du grand public, ils ont été exposés au Grand Palais. Et donc le public a pu en prendre connaissance, si vous voulez. Et donc, ce sont des vitraux figuratifs, mais de façon très étonnante, on garde en filigrane l'ancien vitrail, et puis on a mis des personnages. Mais des personnages dont on ne sait pas s'ils sont saints ou pas, puisqu'au nom du monde moderne, ils n'ont pas d'auréole, ils n'ont pas tous les attributs, si vous voulez, qu'on voit dans des vitraux de cathédrales, et certains sont des évocations de paysages, mais sont presque des dessins abstraits, si vous voulez. Et puis alors, il y a un dessin qui a fait particulièrement polémique, puisqu'il y a une figure avec apparemment une femme dont on pense qu'elle est la Vierge Marie, avec un certain nombre, avec des cheveux épars sur les épaules, et ça a créé une polémique parce que on pense y reconnaître une figure de l'équipe, les plus âgés d'entre vous s'en souviendront, mais en 1969, il y avait eu un crime terrifiant en Amérique de Charles Manson qui avait massacré Sharon Tate, qui était épouse du réalisateur Roman Polanski. Et une des personnes qui avait participé à ce crime s'appelait Susan Atkins. Et c'est vrai que quand on rapproche la photo de Susan Atkins de la figure du vitrail de Claire Tabouret, la ressemblance est troublante, si vous voulez. Hein. Donc, demande un petit peu où est-ce que Claire Tabouret a été chercher ces sujets, ce qu'elle a voulu dire. Si
les vitraux, mais traditionnellement, quand un visage est représenté de façon assez réaliste, c'est qu'on a pris un modèle pour rendre hommage à quelqu'un, ou peut-être stigmatiser quelqu'un, mais donc, il faudrait qu'elle dise. Hein, qui elle entend représenter là?
Et même la gestuelle de ce projet de Claire Tabouret ne représente pas du tout la modestie et la piété de la Vierge Marie, si vous voulez. Donc c'est un petit peu choquant. Donc en réalité, le gouvernement et l'archevêque de Paris essaient d'avancer à marche forcée sur ce projet, puisque les vitraux sont censés être déposés au mois de juin, et les nouveaux vitraux posés au mois d'octobre. Alors, il existe une pétition qui a été lancée par Didier Rickner. Donc Didier Rickner est un spécialiste du patrimoine. Il a un site qui s'appelle La Tribune de l'Art.
Remarquable.
Qui est un site absolument remarquable et sur lequel vous trouverez beaucoup d'informations concernant l'affaire de ces vitraux. Et il a lancé une pétition qui a 350 000 signatures et qui continue à grossir, si vous voulez. Alors, jusqu'à quand le président Macron et Mgr Ulrich négligeront, ignoreront la volonté non seulement des spécialistes du patrimoine, des gardiens du patrimoine, que sont le CNPA, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, et je crois savoir également l'avis des conservateurs de la cathédrale, d'une multitude de fidèles dans le monde entier, jusqu'à quand ignorera-t-on l'avis de ces gens-là?
Oui. Merci beaucoup, Maxence Écart, de nous avoir exposé brièvement, mais donc très efficacement, ce problème et puis ce combat qui continue et qui, je l'espère, se terminera victorieusement pour le patrimoine français et puis le respect de la religion aussi, bien sûr. Voilà, nous nous retrouvons, chers auditeurs, dans quelques instants pour notre dernière partie.
Thank you.
Voilà, vous êtes sur Radio Courtoisie, le libre journal de la France profonde. Vous avez peut-être reconnu l'air de l'Angélus, hein, c'était un extrait. Puisque nous allons parler de cloches et de la très belle histoire des cloches, c'est le titre d'un livre, donc j'ai le plaisir de recevoir l'auteur, Madame Francine Bay, B-A-Y. Bonsoir Madame.
Bonsoir cher ami.
Merci beaucoup
Bonsoir,
d'être avec
nous. Bonsoir chers auditeurs.
Oui, merci d'être avec nous, donc par téléphone. J'avais eu le plaisir de vous recevoir il y a quelques années pour évoquer les premiers évangélisateurs de la Gaule. C'est une émission qui avait beaucoup plu, et à partir d'un livre, hein, là aussi, que vous aviez écrit. Vous en avez écrit de nombreux, plutôt à destination de la jeunesse, mais enfin, c'est toujours appréciable pour tous les âges. Et des livres illustrés, en l'occurrence, La très belle histoire des cloches, qui est paru chez Pierre Tecky, un livre avec couverture cartonnée, et de nombreuses illustrations. Voilà, très jolies illustrations. Alors, c'est un thème que j'ai trouvé intéressant et original. Nous n'avons malheureusement pas beaucoup de temps pour nous étendre dessus. Alors, je vous donne tout de suite le micro, si je puis dire, pour que vous nous présentiez un peu cette question des cloches et de leur origine.
Oui, les cloches, en réalité, il y a des cloches, vous savez, dans toutes les civilisations, déjà très anciennes. Mais ce sont les premiers chrétiens qui ont fait de la cloche un signe que nous connaissons maintenant d'appel et de ralliement. On raconte que c'est l'évêque Saint-Paulin de Nol, qui était dans le sud de l'Italie, qui était le premier, lui, à installer des cloches dans les églises. Et d'ailleurs, c'est l'origine du mot Campanie, enfin la Campanie, la région de l'Italie autour de Naples, qui a donné son nom aux cloches, Campana en italien, les campaniles, les tours pour placer les cloches. Et tout. Ce que j'aime dans les cloches, je trouve, c'est qu'elles rassemblent. C'est un instrument de musique, mais qui a une vocation de rassembler dans les cloches des maisons, les cloches d'école, les cloches de la marine, puis les cloches des églises surtout, qui marquent tous les événements de la vie des paroisses.
Oui, et de la vie quotidienne, même dans les campagnes. Alors,
c'était
le moyen de connaître
l'heure. Bien sûr, on pense au tableau de l'Angélus de Millet, évidemment.
Bien sûr.
On voit les paysans qui s'arrêtent pour travailler pour pouvoir prier, comme l'avait demandé. C'est une tradition très ancienne, ça. C'était le pape Calixte III qui, au XVe siècle, avait demandé qu'on sonne les cloches pour prier pour la chrétienté qui était à cette époque menacée d'être envahie par les Turcs.
Oui.
Voilà.
Oui. Donc trois fois par jour l'Angélus.
Les cloches, c'est pas seulement l'Angélus.
Non, bien sûr. Non, c'est les bonnes nouvelles, les mariages, les baptêmes. C'est aussi le glas.
Voilà.
Pâques.
Oui.
Pâques, les grandes fêtes. Après le silence.
Oui. Après le silence du Jeudi Saint, à partir du Jeudi Saint, c'est ça. Et quelle joie d'entendre les cloches de Pâques le matin de Pâques, le matin de la résurrection. Oui, c'est
certain. Le volet, oui.
Oui.
Et
oui.
Ça peut être aussi le toxin, l'alarme, hein, les incendies, les invasions.
Oui, bien sûr.
Le fond social capital.
Oui, oui. On raconte que le curé d'Ars, le jour de l'Immaculée, la fête de l'Immaculée Conception, la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception à Rome, était tellement heureux de cette proclamation qu'il a fait sonner les cloches pendant très longtemps. Et les paysans, à cette époque, ont cru que c'était un incendie. Ils sont arrivés avec des seaux d'eau, etc. Finalement, c'était un signe de joie seulement.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Votre livre est fondé en grande partie sur l'histoire d'une maison, d'une fonderie, hein, d'une entreprise de fonderie. Vous voulez bien nous en dire quelques mots, parce qu'elle est toujours actuelle, cette entreprise.
Mais oui, c'est très, très intéressant. D'ailleurs, pour moi, c'est l'origine de ce livre, parce que j'ai visité à Annecy la fonderie Paccard, qui est maintenant, sans aucun doute, la plus grande fonderie de cloches en France. Et c'est très intéressant. Il y a un musée, d'ailleurs, très, très intéressant. Et oui, alors là, on voit toute l'histoire de la fonderie Paccard. C'est pas la seule. Hein. Il y a aussi la fonderie qui est connue aussi de Cornillazard dans le Cotentin, à Villedieu-les-Poêles. Mais la fonderie de d'Annecy, la fonderie Paccard, est une origine très intéressante. C'était au moment de la Révolution. Le le premier Paccard, enfin je veux dire Antoine Paccard, 24 ans, qui venait d'être élu maire du petit village de Quintal, qui n'est pas très loin d'Annecy, était très préoccupé de... C'était juste après la Révolution, il n'y avait plus de prêtres dans son village. Et il disait, à cause des révolutionnaires, tout avait été saccagé dans l'église. Les soldats avaient emporté les deux cloches pour les fondre, en faire des canons. Mmh. Et le jeune maire est allé voir l'évêque d'Annecy. Et il lui a dit, c'est vraiment une catastrophe, il n'y a plus de messe, plus de baptême, plus de mariage, cette église est vide, il faudrait que vous nous envoyiez un prêtre. Et l'évêque a répondu tout simplement, vous aurez un prêtre quand vous aurez à nouveau une cloche dans votre clocher. Mmh. Et Antoine s'est pas découragé, et il s'est dit, je trouve un... Alors donc il a demandé un maître saintier, à cette époque-là, on appelait les fondeurs de cloches des saintiers, pour venir fondre une cloche, donc pour l'église de Quintal. Et à cette époque, les saintiers étaient itinérants. Mmh. Maintenant, la fauderie Paccard, elle est installée au bord du lac d'Annecy, enfin, c'est un pignon sur rue. Mais autrefois, les fondeurs de cloches étaient donc les saintiers, maîtres saintiers, étaient itinérants. D'ailleurs, ça m'a fait penser, vous savez, il y a un film de Don Camillo où on voit, il y a une grande cloche qui est fondue justement, enfin, la fabrication d'une cloche sur la place du village. Enfin, c'est un petit détail. Aussitôt, Antoine Paccard s'est dit, bon, il faut absolument que je trouve une solution. Il a demandé à un maître saintier de venir fonder une cloche. De venir fondre une cloche. Alors celui-ci a dit, très bien, mais il me faut quelqu'un pour un volontaire qui soit jeune et fort pour m'aider. Donc Antoine, tout de suite, a été proposé par les villageois qui l'admiraient. Ils venaient de l'élire maire, ils admiraient sa débrouillardise, son sens de l'organisation et tout. Ils ont dit, voilà, mais c'est à lui d'aider le maître saintier. Et donc il a secondé le maître de saintier dans sa tâche. Et voilà, et en quelques jours, donc, la cloche a été faite. Et Quintal a pu reprendre vie. Et sur la cloche, qui était donc toute neuve et brillante, on a gravé, comme on grave toujours sur les cloches, il y a la date du baptême, etc. Et là, on avait gravé en lettres régulières, « Si je survis à la terreur, c'est pour annoncer le bonheur. Mmh. » Voilà, c'était donc un beau programme qui était plein d'espérance pour la ville de Quintal, petit village de Quintal. Mmh. Mais alors lui, Antoine, donc, a décidé à ce moment-là, il s'est dit, maintenant il a vu comment fabriquer une cloche, et il a décidé de se lancer dans l'aventure. Et voilà, et c'est l'origine de l'entreprise familiale, donc qui existe toujours, qui est toujours tenue par la famille Paccard, depuis plusieurs générations. Donc. Alors,
elle a dû déménager.
Transférée. Oui. Oui, elle a dû déménager, parce qu'au début, ils étaient donc installé à Quintal très modestement, mais en 1850, donc c'était peu de temps après la Révolution, mais en 1857, le chemin de fer venait d'arriver à Annecy, et c'était un grand progrès, très intéressant pour les fabricants de cloches, enfin pour eux en tout cas, parce que ça permettait évidemment de sillonner les campagnes, de relier rapidement les villes entre elles pour livrer les cloches, c'était beaucoup plus simple. Donc voilà, la fonderie a déménagé donc à Annecy-le-Vieux. Et puis, elle a connu à ce moment-là un très grand essor. Et puis, il y avait toujours cette recherche de qualité vraiment très rigoureuse. Et ils en étaient à ce moment-là à presque 800 cloches qui étaient fabriquées chaque année. Et alors, les Paccard de l'époque, Georges et Francisque Paccard, perfectionnaient vraiment à ce moment-là le plus possible le dessin de la courbe, la justesse des sons. Ils voulaient absolument que tout soit parfait. Et alors, ils ont acquis à cette occasion une telle réputation qu'en 1891, leurs efforts ont été récompensés par la commande d'une cloche vraiment exceptionnelle, puisqu'elle reste maintenant la plus grosse cloche de France, qu'on peut attendre jusqu'à 10 km à la ronde. Et c'est celle qu'on appelle la Savoyarde, qui est au Sacré-Cœur de Montmartre. Mmh. Alors, vous avez le Sacré-Cœur, vous savez, ça avait été financé par des dons modeste ou important, enfin de famille. On est encore quand on visite le Sacré-Cœur, on voit dans les chapelles absidiales, on voit les noms sur les pierres, les noms des familles qui ont donné de l'argent pour la construction du Sacré-Cœur. Et alors les habitants de la Savoie, eux, sous l'impulsion de l'archevêque de Chambéry, ont décidé, parce que c'était le produit local en quelque sorte, de faire fondre une cloche pour le campanile de Montmartre. À Montmartre, c'est un dôme, donc on peut pas mettre de cloche comme dans une église normale. Il y a un campanile à côté pour les cloches.
Et vous racontez dans le livre, on n'a pas le temps ici, mais vous racontez le transport, parce qu'évidemment, c'était toute une aventure pour transporter un tel objet.
Toute une aventure, exactement. Ouais. Alors, quand la cloche est partie à Annecy, alors ça a été, elle était trop tirée par... Il y avait 3 chevaux qui étaient précédés de 12 paires de bœufs qui symbolisait les 12 cantons savoyards. Alors, c'était très beau, il y avait une foule enthousiaste sur le passage, enfin voilà. Alors à Paris, en arrivant, donc ça a été, on l'a mis sur un train, après un wagon spécial, spécialement renforcé pour aller jusqu'à Paris. Et puis là, à Paris, ça a été très très compliqué. Hein. Elle était sur un traîneau qui avait été construit sur mesure, traîné par 28 chevaux. Et pour monter la colline de Montmartre, il y avait le pavé glissant, c'était au mois de novembre. C'était un grand événement parisien.
Oui, alors les auditeurs qui voudront en savoir plus devront se procurer le livre, puisque nous devons malheureusement nous quitter. Petit livre, mais très instructif, notamment sur les aspects pratiques et techniques, et puis aussi notamment sur le baptême de la cloche une fois qu'elle est finie, c'est très particulier. Un prénom, un parrain, une marraine, et puis un évêque pour la bénir, un évêque s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup Francine Bay.
Et même enregistré sur le registre paroissial des actes de baptême.
Oui, incroyable. Voilà, je rappelle que vous êtes l'auteur de La très belle histoire des cloches aux éditions Pierre Tecky. Merci madame, à bientôt chers auditeurs.
Vous venez d'entendre le libre journal de la France profonde dirigé par Thibaut de Chassé, diffusé en direct sur Radio Courtoisie le 28 mai 2026 de 21h30 à 23h et réalisé par Axel. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.